Aujourd'hui, près de 15% des Français mangent des produits issus de l'agriculture biologique tous les jours. Sur le long terme, la consommation de produits biologiques a connu une grande dynamique, avec une croissance atteignant 30%. Mais depuis 2021, le marché de l'agriculture biologique subit un faible ralentissement avec une diminution allant de 0,5 à 1%. Cette diminution n'est pas impressionnante en chiffres, mais elle est significative car c'est une première pour l'agriculture biologique. Ce ralentissement viendrait de la réduction du pouvoir d'achat en général, mais pas que. Baisse des ventes, consommateurs méfiants, producteurs fragilisés, le marché bio est-il en train de s'essouffler? Qu'y a-t-il derrière le label agriculture biologique et pourquoi les consommateurs perdent confiance en ce label?
L'agroécologie, on m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est.
McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans.
Agro, j'écoute. L'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro, j'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano.
Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire.
En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan.
Bienvenue à Campus FM, vous écoutez Agro J'écoute. Nous sommes des élèves de l'école d'ingénieurs de Purpan en 5e année, Hortense, Pauline et moi-même, Domiti. Merci à Campus FM de nous accueillir pour cet enregistrement de podcast. Merci aussi à Marie Cavas de bien vouloir venir ici pour témoigner. Donc elle est responsable de certification à EcoCert. Et merci aussi au groupe de jazz Cigale qui est originaire de Toulouse et que l'on va entendre un peu plus tard lors de la pause musicale. Donc pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Eh bien pour vous parler du label bio, donc les attentes vs les réalités et que se cache-t-il derrière ce thème. C'est ce que l'on va voir tout de suite.
En une soixantaine d'années, l'agriculture biologique est progressivement passée d'une position marginale à une question centrale de la société. Aujourd'hui, on a 9% de la surface agricole utile qui est bio. Donc ce label, il a un cahier des charges qui est défini par des règles très strictes et exigeantes qui reposent sur le respect naturel des écosystèmes et des cycles naturels. On évite les produits chimiques de synthèse comme les pesticides et les OGM. La rotation des cultures ou le recyclage des sous-produits végétaux est largement privilégié. Juste pour rappel, un pesticide, c'est une substance active qui a pour objectif de protéger les végétaux ou de prévenir les actions des organismes nuisibles. Au niveau de l'élevage, on n'en parle pas beaucoup, mais en bio, il y a aussi beaucoup de règles, notamment par rapport à la densité du nombre d'animaux par mètre carré qui sont bien inférieures à celles du conventionnel. Et les animaux doivent avoir accès au plein air. Et ils sont nourris d'aliments bio, produits localement dans la mesure du possible. On a aussi des produits transformés bio qui doivent contenir au moins 95% d'ingrédients bio sur le cahier des charges. Et les arômes naturels et 54 additifs sont autorisés, contre plus de 300 dans le conventionnel. Aussi, l'utilisation d'antibiotiques, d'hormones de croissance et de farine animale est interdite dans l'élevage. C'est du coup la démarche la plus garantie pour le respect des équilibres naturels et la protection de l'environnement. Si les agriculteurs et les éleveurs en agriculture biologique ils sont privés de ces traitements chimiques qu'on utilise en conventionnel, comment en fait ils agissent sur le terrain? En production végétale, on a plusieurs alternatives. Ils privilégient des variétés de semences spécifiquement sélectionnées et adaptées au climat et au territoire pour la résistance aux maladies notamment. Et on a aussi des techniques culturelles simplifiées. Le travail mécanique du sol aussi est très élaboré et également des alternatives biologiques pour lutter contre les organismes nuisibles.
Donc l'agriculture biologique est encadrée par une réglementation européenne depuis 1991. La production et la transformation biologique fait partie des signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine. Il existe deux logos, le logo européen pour l'agriculture biologique et le logo français, donc juste AB Agriculture Biologique. La réglementation est plutôt favorable dans les circuits courts ou pour la production locale, mais on voit de plus en plus au niveau des grandes surfaces. Aujourd'hui, le bio, il est un peu partout dans notre vie. On peut le trouver donc en alimentaire, mais aussi dans les produits d'entretien, le cosmétique ou encore dans nos vêtements. Comment cette réglementation est donc encadrée et qui va se charger de cette certification? Lors de la commercialisation, tout opérateur qui va devoir être contrôlé en fait par l'INAO, donc c'est l'Institut National d'Origine et de Qualité, et va avoir des certificats qui correspondent. Il existe une douzaine de certificateurs en France aujourd'hui, et seuls certains vont pouvoir accompagner les agriculteurs.
Du coup, Marie, je te laisse te présenter un petit peu.
Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Marie Cavas, je suis chargée de certification en production agricole dans la société EcoCert. Donc, EcoCert, comme vous l'avez dit juste avant, c'est un des organismes de certification qui existe en France, puisqu'on en compte plusieurs et qui ne travaillent pas que sur le bio, en fait, qui travaillent aussi sur d'autres cahiers des charges, d'autres labels. Par contre, bon, EcoCert, c'est celui qui a le plus de parts de marché au niveau du bio, notamment parce que historiquement, en fait, EcoCert, ça a été créé au début de, quand le cahier des charges bio a été créé, en fait, il y a une trentaine d'années. Et donc, au niveau de mon métier, de mes missions, donc juste avant d'entrer dans le détail de mes missions, je vais parler un petit peu des deux étapes principales de la certification, du processus de certification, qui sont la première étape, c'est l'audit, donc où le contrôleur va aller sur le terrain chez le client, donc vérifier la traçabilité, la conformité des pratiques. Et suite à cet audit, du coup, il va rédiger un rapport d'audit qui est renvoyé au siège donc, d'EcoCert. Et c'est là que les chargés de certification, on va faire une revue de ce rapport d'audit. On va regarder ce qui est conforme, ce qui ne l'est pas. Et en fonction, on va attribuer ou non la certification. Et après, on a aussi d'autres missions qui sont de répondre aux questions des clients. Donc ça va être les questions qui peuvent être réglementaires ou aussi par rapport au suivi de leur dossier. Donc par mail, par téléphone, on s'occupe de répondre à tout ça. Donc voilà, par rapport à ce que je peux vous dire sur mon métier et sur EcoCert.
Merci beaucoup. Du coup, on va faire une petite pause musicale et nous revenons dans un instant pour écouter les témoignages des agriculteurs interrogés. Donc on va écouter le groupe Cigale qui est originaire de Toulouse et qui émerge de la rencontre de Clément, Raphaël, Kylian et Arthur.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains restent en face à face. Tandis que sous le pont de nos bras passe, des éternels regards longs de Silas. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Comme cette eau courante, l'amour s'en va. Comme la vie est lente, comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Passe les jours et passe les semaines. Ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure.
Donc nous venons d'écouter le groupe Cigale, originaire de Toulouse. Vous êtes toujours sur Agro J'écoute avec les étudiants de Purpan. Donc dans cet épisode consacré sur le label bio Attente VS Réalité, en première partie, nous avons un peu parlé du label avec toutes les productions possibles sur tous les types de produits et on a un peu vu la réglementation qui était assez complexe. Maintenant, on va passer en fait sur une partie des témoignages de trois agriculteurs qui vont nous partager leur vision de l'agriculture de l'agriculture biologique. Donc en premier, nous allons écouter Martin Vignals, qui est un éleveur d'ovins dans le Lot en agriculture biologique.
Bonjour, Martin Vignals. Je suis éleveur ovin sur les causes du Quercy. J'élève des brebis en ovin viande avec un troupeau d'environ 180 mères. Je me suis installé en 2011 en tant que cotisant de solidarité. Le regard sur l'agriculture biologique, au début, c'était quelque chose qui était évident pour moi. Je l'ai fait par conviction, même avant d'avoir la certification. Et assez vite, je me suis confronté à les tracasseries administratives qui sont liées à la certification et à des contradictions, des dysfonctionnements pour moi qui sont liées à un système de certification qui est trop complexe et qui est devenu de plus en plus décalé du terrain. Il y a plusieurs volets dans l'agriculture biologique. Pour ce qui me concerne, il y a le fait d'avoir une reconnaissance du travail qui respecte l'environnement, la nature, les animaux, qui exclut les produits phytosanitaires. Il y a aussi la partie plus financière. Aujourd'hui, au niveau des aides, ce qu'on appelait les aides au maintien, c'est-à-dire le fait d'être en bio et de le rester, ces aides au maintien n'existent plus. Le problème, c'est que il y a un manque de reconnaissance évident des pionniers ou des gens qui sont depuis plusieurs années en agriculture biologique, qui se voient complètement retirer leurs aides au maintien. Et il y a un jeu un peu vicieux qui s'est mis en place, qui est de se convertir à l'agriculture biologique, de repasser en conventionnel, de se reconvertir à l'agriculture biologique, de repasser en conventionnel, par intérêt et par calcul. Des exemples concrets, ça va être que, par exemple, en ovin bio, en ovin viande bio, j'ai la possibilité, si je le souhaite, tous les ans, de renouveler mon cheptel ou de l'agrandir à raison de 20% avec des animaux qui viennent du circuit conventionnel, sans avoir de période de conversion supplémentaire. Un autre exemple que j'ai pu vivre, c'est quand on a eu des pénuries de fourrage. La difficulté à trouver des fourrages en bio autour de chez nous m'a poussé à demander une dérogation, parce que j'avais un voisin qui est en conventionnel, qui fait de l'orge, dont la paille d'orge n'était pas traitée. Et pendant plusieurs semaines, après des démarches auprès de mes contrôleurs et de l'organisme de certification, on m'a dit de privilégier des circuits biologiques avant tout, quitte à aller les chercher à plusieurs centaines de kilomètres, voire en Espagne. Et il a fallu batailler pour montrer que le fait d'aller chercher de la paille bio en Espagne, dont on connaît même pas le système de certification et qui est pas forcément réputé pour être très crédible, avait moins de sens que d'aller la chercher juste à côté de chez moi, chez un voisin dont je savais, puisque je le connais et je connais la manière dont il travaille, que cette paille était propre, suffisamment en tout cas pour moi qui par conviction travaille d'une certaine manière, pour intégrer mon fonctionnement sur la ferme et intégrer à la fois la litière pour les animaux et la nourriture pour les agneaux. Finalement, j'ai eu le droit, au bout de presque 5 mois, après une demande de dérogation, d'utiliser de la paille pour des animaux qui n'en avaient plus besoin, alors que j'aurais pu, d'un claquement de doigts, en faire venir d'Espagne sans avoir de problème. Donc il y a vraiment un problème de régulation et de fonctionnement général au niveau de l'agriculture biologique qui perd toute crédibilité, sauf peut-être aux yeux des consommateurs, et qui justifie une hausse des prix qui est de plus en plus grande. Moi aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, si j'avais pas le circuit de commercialisation qui nécessite le label bio, je pense que j'en sortirais. Parce que pour moi, ce label a plus de sens. C'est devenu une machine à argent pour les organismes certificateurs, pour la PAC, pour des agriculteurs qui sont dans l'opportunisme.
Du coup, merci Martin pour votre intervention. Donc, on comprend à travers ce témoignage qu'il y a de nombreuses incohérences et non-sens dans ce label. Du coup, moi, je me demande s'il est vraiment pertinent d'avoir le label bio si le bilan carbone n'est pas pris en compte dans un contexte de changement climatique. Est-ce que cela a du sens de pouvoir renouveler son cheptel en intégrant des animaux d'élevage en conventionnel? Pour rappel, il est écrit que dans le cahier des charges que jusqu'en 2035, des dérogations demeureront toujours possibles pour introduire des animaux conventionnels en cas d'indisponibilité d'animaux issus de l'agriculture biologique. Quand on regarde le cahier des charges du label bio, ça confirme un peu ça, puisqu'il n'y a pas vraiment de réglementation évoquée concernant les émissions de gaz à effet de serre. Effectivement, les 92 pages du cahier des charges n'interdisent pas les serres chauffées, ni le transport par avion ou encore les déplacements de longue distance en voiture, ce qui pour moi est un comble pour un produit censé être écologique. Donc je pense qu'il faut pouvoir associer le bio et le local pour que cela ait du sens, d'autant plus que le label bio n'a pas les mêmes exigences dans tous les pays. Selon l'organisme EcoCert, il existe des différences dans les règlements européens et français. Chaque pays, comme la France, a le droit d'appliquer un cahier des charges local, mais doit respecter au minimum celui imposé par Bruxelles. Le plus grand problème en Europe est en fait l'absence d'harmonisation des politiques de contrôle. C'est-à-dire que le cahier des charges reste très flou sur ce point. En France, les inspections des producteurs bio se font en moyenne 1,6 fois par an, en sachant qu'un tiers sont des visites surprises et 10% doivent subir une analyse de leurs produits. Mais c'est pas pareil dans tous les pays. Par exemple, en Espagne, les visites sont bien moins fréquentes, à peine plus d'une visite par an et seulement 17 sont inopinées. Et en Roumanie, seulement 3% des visites sont impromptues. Il existe également des interprétations de la réglementation européenne qui peuvent varier d'un pays à un autre. Par exemple, en Espagne, la production de fruits et légumes bio intensifs est permis. Ces produits sont cultivés sous tunnel avec des engrais organiques. Donc on comprend qu'il est incohérent, comme pour le foin de Martin, d'importer des produits biologiques dans notre pays. Ensuite, pour revenir sur la question du bilan carbone, si on regarde sur la base Agribalis 3.0, qui évalue l'ACV, donc qui correspond à l'analyse de vie des produits alimentaires, et qu'on prend l'exemple du blé tendre, en fait, le coût en émissions équivalent carbone est dû principalement à l'agriculture de ce produit en lui-même, et le transport représente une petite partie des émissions. Mais même si cette part est assez faible, elle n'est tout de même pas négligeable, et c'est quand même un parfait non-sens pour moi. Du coup, Marie, est-ce que tu peux nous confirmer un peu ça, nous parler un petit peu?
Alors, pour commencer, par rapport aux animaux, au renouvellement, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en bio, donc on a une partie des agriculteurs en France qui sont en bio, qui est moins importante que la partie des agriculteurs conventionnels. Et en fait, aujourd'hui, il est autorisé en bio de renouveler une partie sans cheptel avec des animaux non bio, qui sont d'ailleurs, enfin, c'est des animaux non bio nullipares, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais mis bas, donc c'est des femelles assez jeunes et qui ensuite subissent une période de conversion. Et en fait, ça s'est autorisé parce qu'il n'y a pas assez d'animaux bio disponibles, en fait, pour que tout le monde puisse renouveler leur cheptel avec des animaux bio. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle il y a cette règle-là. Et justement, t'en parlais aussi, Hortense, il va y avoir, jusqu'en 2035, c'est renouvelé, il va y avoir une base de données en fait, qui va être mise en place, qui va permettre justement, qui va faciliter en fait, le lien entre les agriculteurs bio, où ils pourront mettre en vente leurs animaux dessus, et ça sera plus facile en fait, pour eux de rechercher des animaux bio plutôt que conventionnels. Mais voilà, il faut le temps aussi que la disponibilité en animaux bio se crée en France. Et après, effectivement, dans le cahier des charges, au niveau tu parlais du bilan carbone, il y a certaines choses qui sont pas, enfin, il y a des règles qui sont faites au niveau de l'alimentation. Voilà, il y a une partie de l'alimentation des animaux qui doit venir dans la mesure du possible du local. Et après, soit on est à l'échelle régionale ou alors nationale. Il n'y a pas d'obligation parce qu'après, finalement, comme c'est, le cahier des charges, il est européen à la base, donc finalement, d'un pays à l'autre, ça va beaucoup varier. Donc, on pourrait pas obliger un agriculteur à se fournir que dans son département, par exemple. En plus, voilà, c'est très... Là, on parle de la France, mais après, ça fonctionne peut-être différemment aussi dans d'autres pays. Mais effectivement, il y a certaines choses que tu as citées, donc l'agriculteur cité, qui ne rentrent pas dans le champ d'application, finalement, du cahier des charges.
Ok, parce qu'au-delà du bilan carbone qui n'est pas évoqué dans le cahier des charges, d'autres questions qui sont quand même essentielles sont pas non plus évoquées, comme la rémunération des agriculteurs, l'impact social, la réduction des emballages et du coup l'empreinte carbone, mais je pense qu'on va revenir un peu plus tard. Et maintenant, nous allons écouter Patrick Méraville, qui a une exploitation en polyculture-élevage, en agriculture biologique.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Patrick Méraville, je suis exploitant agricole depuis 1992, installé en biologie, en agriculture bio, en polyculture-élevage, c'est-à-dire que j'ai un peu de tout comme culture, c'est-à-dire de la vigne en AOC Coteaux du Quercy, des prunes en AOC, enfin en appellation prune Reine-Claude Vraie, et puis quelques céréales, quelques prairies naturel et voilà, en gros voilà mon exploitation. C'est ici, elle fait à peu près 36 hectares. L'élevage me permet, c'est des génisses que j'impatiente pour le voisin et ça me permet d'avoir tout ce qui est engrais organique pour mes pruniers et je n'achète plus d'engrais pour mes pruniers. Voilà. Pourquoi le bio ? Envie de faire une agriculture propre et saine. Envie de laisser à mon futur repreneur une terre saine, sans pesticides, sans résidus chimiques dans le sol. Un label bio, à mon point de vue, est une marque sincère pour les consommateurs, à la différence de l'HVE. Le bio, c'est respecter la nature et travailler avec elle. Voilà pour moi tout ce qui est la définition du bio.
Merci Patrick Méravi. Là, on a une toute autre vision du label bio. Patrick, lui, il souhaite continuer dans l'agriculture bio. C'est un travail sain pour lui. On sent qu'il veut travailler de manière transparente pour ses consommateurs, pour ses clients. Et il a dit quelque chose de très intéressant, je trouve, c'est le fait de travailler avec la nature. C'est, je pense, la valeur la plus importante du label. Et voilà, il a donné des exemples. Enfin, il réutilise l'engrais pour ses pruniers. Il essaye de minimiser les intrants, de devenir un peu autonome sur cet aspect-là. Et il a parlé de sincérité aussi. Donc, on sent que ses clients ont confiance aussi en sa manière de travailler, justement par l'intermédiaire de ce label, qui est un moyen de communication. Et ce qui l'encourage à continuer dans cette voie. Et il a parlé... D'ailleurs, du label HVE, donc haute valeur environnementale, qui en se montrait controversé. Peut-être qu'on pourrait en parler du coup avec Marie. Je ne sais pas si tu connais un petit peu le sujet de controverse sur ce label, mais on dit qu'il y a des raisons au niveau des réglementations qui sont peu souples par rapport au label bio.
Bah alors, je ne le connais pas en détail, le cahier des charges HVE. Je ne sais pas exactement ce qui est demandé, mais ça ne va pas être... effectivement, c'est différent du label bio. Dans le sens où le label bio, ça va être sur toutes les pratiques, que ce soit de l'élevage ou des cultures ou de la transformation. HVE, on est plus, c'est plus tourné par rapport aux intrants, il me semble.
Mmh. Maintenant, du coup, après avoir donné la vision... sur le label bio, on va écouter maintenant Julie Giordano, qui vit dans le Lot et qui est éleveuse de vaches de la race Black Angus. Alors Julie, elle n'a pas de label, mais par contre, on va pouvoir écouter le sens de ses pratiques.
Mon avis sur le label bio, c'est que ça a été très bien quand il y a eu une prise de conscience des dérives qu'avait engendré l'agriculture intensive d'après-guerre, avec l'utilisation massive des produits efficaces, mais nocifs pour l'homme et l'environnement. Et donc le label a permis de rassurer et d'offrir une alternative aux personnes qui se soucient de ce qu'elles mangent et de l'impact que cela a sur l'environnement. Il a permis également de communiquer sur les modes de production et de mettre en lumière les pratiques et les savoirs qui avait été rendu obsolète par la surmécanisation et le tout artificiel de la production intensive. Mais comme tout label, il répond à un cadre, parce qu'il en faut un pour définir des règles, et il n'est pas donné à tout le monde d'y entrer facilement, sans que ce soit un manque d'envie des agriculteurs ou de compréhension des problèmes environnementaux. Et il y a plusieurs freins qui, à ce jour, limitent son essor, notamment des raisons économiques, le coût des intrants qui est beaucoup plus élevé en bio, le surcroît de travail, pour une part de marché qui est encore minoritaire. Il y a des raisons aussi culturelles et sociologiques qui rendent des conversions difficiles encore. Il y a aussi la crainte que l'on ne puisse pas produire assez de cette façon. Du coup, pour ma part, je ne suis pas labellisée par choix. Avec mon mode d'exploitation, mon mode d'élevage en extensif, j'exploite essentiellement du parcours qui, par essence, est bio car il n'est pas mécanisable. Et ça ne me paraissait pas nécessaire d'avoir le label bio, du coup. De plus, n'étant pas en bâtiment et en pâturage, mais en pâturage tournant, mes animaux ne nécessitent que très peu de traitements vétérinaires. Et du coup, j'utilise ni engrais ni pesticides. Certes, j'ai un rendement peut-être moindre que de l'intensif. Mais je sais ce que je produis, et je sais que je produis une nourriture saine. Voilà, je communique auprès de mes clients et locaux, et ils voient mes vaches pâturer toute l'année et peuvent venir sur la ferme. Et ça suffit à leur prouver ma bonne pratique. Et voilà. Et je pense que plus qu'un label, c'est le bon sens, c'est le respect du vivant qu'il faut promouvoir. Et surtout instruire les populations et qu'elles aient une meilleure connaissance et conscience des enjeux.
Merci Julie pour ce témoignage. Donc comme on a pu l'entendre, Julie, elle préfère pas être labellisée, mais ses pratiques, elles vont bien dans le sens de la transition agroécologique. Donc l'arrivée du label a permis une prise de conscience par rapport à l'agriculture obsolète, de la surmécanisation et de la surproduction. D'après elle, on voit que le cadre du label n'est pas adapté à tous, justement par rapport aux freins qu'elle a évoqués, comme le coût des intrants qui est beaucoup plus élevé en bio qu'en conventionnel, le temps de travail qui est beaucoup plus long, la crainte de ne pas produire assez pour répondre à la demande, et une rémunération qui ne suit pas toujours. En effet, dans le cahier des charges, les questions de rémunération des agriculteurs ou encore l'impact social ne sont pas évoquées, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Ensuite, j'ai entendu parler d'un nouveau label qui s'appelle le label FNAB, qui émerge et qui prône le bio. Et il aura un cahier des charges beaucoup plus exigeant que celui du label bio. Et il comportera 9 critères sur le volet social. Voilà. Et concernant les aides en agriculture biologique, donc même si l'aide à la conversion est essentielle, certains profitent de ce système maladroit et se convertissent puis reviennent en conventionnel par simple intérêt financier, donc comme l'a dit tout à l'heure Martin Vignal. Les aides à la conversion peuvent durer jusqu'à 5 ans et les aides au maintien sont supprimées depuis quelques années en Occitanie et elles le seront dans toute la France d'ici 2023. Aussi, de manière générale, les prévisions économiques pour une conversion ou une installation doivent se faire sans les aides à cause des nombreuses incertitudes quant à la régularité des paiements, à cause du risque d'erreur et les retards de paiement. Donc on peut voir qu'il y a un vrai problème au niveau de la gestion des aides financières dans ce label. Et comment on peut encourager les agriculteurs à adopter un mode durable de production si le système financier pour les aider est assez bancal. À travers ces témoignages, on peut voir que même au sein de la profession agricole, les personnes sont partagées et n'ont pas toutes la même vision, le même avis sur ce label bio.
Marie, on a évoqué un peu plus tôt les grandes lignes sur le cahier des charges. Est-ce que vous pouvez nous parler des pesticides naturels? Parce que du coup, les pesticides de synthèse sont interdits, mais on sait qu'il y a certains naturels du coup qui sont autorisés. Et on se poserait la question, est-ce que le bio, c'est vraiment naturel? Puisque une grande population pense que le bio signifie naturel.
Oui, effectivement, en bio, on peut, enfin, il y a des intrants, on peut utiliser certains produits. Ça peut être ces produits-là, ils ont été déterminés au niveau européen. Et en fait, ils sont listés, enfin, les substances actives sont listées en fait dans une annexe du cahier des charges. Après, je saurais pas vous dire pourquoi, ces molécules-là, mais voilà, la plupart, enfin, on a une liste en fait. Il y a plusieurs annexes dans le règlement, mais il y a une annexe sur les amendements, par exemple, qui peuvent être utilisés où on va retrouver le fumier, le bois qui n'ont traité, tout ça, donc tout ce type de produits-là qui va être utilisé en tant qu'amendement. Et après, sur les pesticides, voilà, ça va être certaines substances qui peuvent être utilisées. Et donc après, les fabricants, soit c'est utilisé pur, soit les fabricants qui utilisent ces substances pour faire des produits phytopharmaceutiques qui peuvent être utilisés en bio. Après, eux, ils sont contrôlés et ils doivent apposer la mention, du coup, utilisée en agriculture biologique, parce que ce produit-là, du coup, contient une substance qui est autorisée dans les annexes. Donc, effectivement, il y a quand même certains produits qui sont autorisés, qui ont un moindre impact, normalement, sur l'environnement et qui sont quand même, voilà, comme vous l'aviez dit au tout début, beaucoup plus limité par rapport à ce qu'on peut retrouver en conventionnel.
Parce qu'il y a certains produits naturels, par exemple le pyrèthre, qui est un insecticide, et on dit qu'il est très dangereux pour les abeilles. Et du coup, est-ce que c'est normal qu'il soit toujours utilisé dans ce mode de production?
Oui, il y a certains, même le cuivre aussi, qui est assez controversé sur l'effet qu'il peut avoir, notamment l'utilisation en vigne ou en arboriculture, où il peut être fortement utilisé et qui, c'est assez controversé. Donc, effectivement, il y a ces questions-là. Pour le moment, le cuivre aujourd'hui est toujours utilisé, je pense aussi par rapport à des recherches alternatives, en fait, en bio, pour remplacer ces substances-là. Mais effectivement, il y a certaines substances qui sont assez controversées sur leur utilisation.
C'est en progression, quoi.
Oui.
Du coup, moi, j'ai une autre petite question qui rejoint un peu celle de Pauline. Comment peut-on expliquer les résidus de pesticides présents dans les produits bio? Est-ce qu'il y aurait une explication ou pas?
Par exemple, un agriculteur qui est en bio, donc lui, il va gérer toute son exploitation, ou une partie, par exemple, ses cultures en bio. Ça ne veut pas dire, son voisin, il peut très bien avoir un voisin en agriculture conventionnelle. Et donc, il y a toutes des mesures qui sont mises en place de prévention des contaminations, justement, quand c'est le cas. Mais il est toujours possible qu'il puisse avoir, on sait très bien que quand un produit est pendu dans un champ, s'il y a du vent, il y a des dérives, donc par ces biais-là, il peut y avoir des contaminations. Et si jamais ça arrive, les agriculteurs sont tenus d'informer leur organisme certificateur en disant j'ai telle parcelle qui a été contaminée, quand ils le voient. Et puis, du coup, après, il y a des mesures qui sont prises pour ne pas certifier ces parties-là. Mais ça peut arriver.
Ok. Parce que selon le dernier rapport de la EFSA, sur les résidus de pesticides dans les aliments, il y a 15% des quelques 4620 aliments bioanalysés qui contenaient des résidus détectables de pesticides. Et il y a 0,8% d'entre eux qui dépassaient les limites maximales de résidus. Du coup, en fait, si je comprends bien, les contrôles garantissant le label bio, ils portent sur les moyens et non sur les résultats, en fait.
Oui, le cahier des charges bio, ça va être toutes les pratiques, l'utilisation d'intrants, la non-utilisation et l'utilisation d'intrants qui sont autorisés en bio, et toutes les pratiques qui vont favoriser que le produit à la fin soit exempt de toute contamination. Mais on ne peut pas exclure, dans un environnement, il n'y a pas juste l'agriculteur bio qui va être sous cloche et qui va faire son truc, il y a tout l'environnement qui rentre en jeu. Et c'est toutes ces pratiques-là et de mesures de prévention qui vont jouer en fait sur le résultat. Mais effectivement, chaque produit bio n'est pas analysé avant la vente pour savoir s'il respecte. Ça, c'est plutôt d'autres labels comme le label zéro résidus de pesticides qui existe, qui se focalise sur ça, quoi.
Et moi, j'aurais une dernière petite question. On sait qu'il y a 45% donc des aliments bio qui sont vendus plutôt en grande surface. Et on sait que aussi ils vont vouloir plutôt aller dans le sens des consommateurs et des clients. Et du coup, par exemple, on va trouver des tomates en plein mois de décembre en agriculture biologique. Est-ce que c'est pas un peu bizarre de trouver ça un non-sens, que ça soit de l'agriculture biologique et qu'il soit avec des aliments qui sont pas du tout de saison?
Oui, après, vous en parlait tout à l'heure aussi avec les serres chauffées. C'est-à-dire que pour certaines productions, en fait, il y a quand même une saison, il y a une période en fait délimitée pour produire. Justement, je crois que les tomates sont dedans. Enfin, en France, tomates, courgettes, il y a un temps en fait dans lequel il n'est pas possible de produire ces aliments-là. Donc, il y a quand même une notion de saisonnalité qui est un petit peu cadrée. Après, ça, c'est en France. Donc, vous parliez aussi tout à l'heure des fois selon les pays. Donc, je ne sais pas après dans les autres pays si peut-être cette règle-là n'existe pas. Mais je crois que c'est tous les, enfin, ces productions-là, je crois qu'il y a l'aubergine, courgette, tomate, qui ne peuvent pas être produites entre décembre et mars, même en serre chauffée, quoi.
D'accord, merci beaucoup.
Pour finir, on va retenir de cette émission que le label bio a toutes ses valeurs importantes aujourd'hui, même si il reste des progrès à faire. Et dans l'attente de faire évoluer ces exigences du label européen, c'est le label qui garantit la meilleure qualité dans nos choix de consommation. Nous tenons à remercier Campus FM et Sophie Yvon pour nous avoir permis de réaliser ce podcast. Ça a été une très belle opportunité pour nous de débattre sur ce sujet et de faire un premier pas dans l'enregistrement radio. On remercie aussi nos responsables de notre DA Devenir acteur de la transition agroécologique de l'école d'ingénieurs de Purpan, Simon Giuliano et Aline Bouvard. On espère que cette émission vous a plu et vous a permis de mieux appréhender la réalité du label biologique. Et vous pourrez retrouver l'émission sous forme de podcast sur AgroJécoute très prochainement. Nous vous souhaitons une très belle journée et à bientôt.